If I can be me, I think this is my success.
Pour moi, le succès, c'est un état d'esprit.
C'est atteindre le succès au bout de l'effort.
C'est être inspirée et réussir à mon tour à être inspirante pour le monde qui m'entoure.
C'est se sentir au bon endroit au quotidien, c'est-à-dire épanoui dans ta vie, dans ton travail et épanoui avec les gens qui t'entourent.
Ça peut être difficile, pas difficile, mais c'est vraiment se fixer un objectif et arriver à l'atteindre en se donnant les moyens et en mettant des moyens.
Même si... pour moi, voilà, j'arrive pas à ticker tout dans ma to-do list. Je sais que mes parents, ils seront fiers de moi quoi qu'il arrive. Et en fait, c'est ça ma plus belle réussite.
C'est quelque chose qui se définit pas parce que t'as ce que tu possèdes, mais parce que tu ressens.
Bienvenue sur On Papers, le podcast qui fait parler les handballeuses sur le sport de haut niveau, sur ses parts d'ombre et la réalisation de soi, sur l'amour pour ce que l'on fait, et la santé mentale aussi. Mon but ? Déconstruire l'idée d'une définition unique de la réussite, linéaire et sans droit aux essais-erreurs, afin que l'on ose le courage de vivre des carrières sur mesure, intentionnelles et dingues, tout en se rappelant qu'être athlète, ce n'est pas être un super-héros. Je suis Melvine Debat et aujourd'hui, je reçois Coralie Lasource.
Franchement, là, j'ai fait une saison, je ne sais pas si je revivrai une saison pareille parce que c'est un truc de folie, vraiment.
La saison dernière était la Golden Year de Coco. Avec son club de Brest, elle a remporté pour la première fois de sa carrière la Coupe de France et le Championnat de France. Elle a disputé sa première finale de Ligue des Champions et remporté son premier titre olympique au JO de Tokyo. Le tout à 28 ans.
Bon, ça a pris du temps, hein. Franchement, je pense qu'en vrai, ça arrivait au moment où, je vais pas dire où tu t'y attends le moins, mais où tu es un peu plus posé, en fait, où tu mets moins cette pression de « il faut qu'on gagne, il faut qu'on gagne, il faut qu'on gagne ».
Coco a des objectifs clairs, une intention inflexible tendue vers le futur et la réalisation de ses rêves. Pour ça, elle travaille dur, elle échoue, elle gagne, elle apprend, elle recommence. Ça, c'est sa vision et les moyens qu'elle y met. Par contre, son attention, c'est-à-dire son temps de cerveau disponible, ne porte pas sur le futur ou le résultat convoité, mais bel et bien sur ce qu'elle peut faire ici et maintenant pour s'en rapprocher pas à pas. Ce changement de paradigme a été un vrai game changer dans sa carrière. Bien sûr, elle fait des allers-retours entre sa vision et ce qu'elle fait, car se rappeler de nos rêves, c'est un énorme carburant face aux tempêtes, au départ à l'étranger, aux titres que l'on ne remporte pas toujours. Mais ce détachement, il est indispensable pour vivre sereinement au quotidien. Dans cet épisode, on a parlé du temps qui nous rend plus matures, des titres olympiques que l'on n'a pas toujours le temps de célébrer, et des moments de moins bien qui ne demandent qu'à être mis sur la table.
Après, je pense qu'aussi il faut savoir discuter avec le staff.
Ouais.
Et savoir dire que quand ça va pas, que des fois on a besoin de se retrouver soi-même avant de faire autre chose, quoi. De pouvoir être dans un sport collectif où tu vois, il faut que tu donnes de ta personne aux autres. Et peut-être que des fois, on a un peu trop cette peur d'en parler, par peur de plus être reprise ou plus ceci ou plus cela. Mais en fait, au moins, tu sais que tu auras été honnête avec toi-même, que tu auras dit les choses.
J'adore la vulnérabilité dont fait preuve Coco dans cet épisode. Car pour moi, c'est la plus grande force d'un être humain, en fait, que de savoir reconnaître ses limites et d'en parler. J'espère que cet épisode vous plaira. Il commence par cette question. Qu'est-ce que ça t'a procuré de remporter cette médaille d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo ? Et surtout, comment tu vas ?
En vrai, je vais pas mentir, ça, depuis que je suis revenue et jusqu'à maintenant, j'ai du mal à réaliser. Je pense que c'est aussi parce qu'on a eu très peu de temps pour couper et vraiment réaliser et savourer. Du coup, je m'en rends compte par rapport aux sollicitations que j'ai, qui sont énormes depuis que je suis revenue. Mais à titre personnel, j'ai encore énormément de mal à me dire qu'on est championne olympique. Et c'est aussi un peu dur parce que je parle un peu avec les filles Et en fait, on est dans un... dans une bulle un peu bizarre où, où en fait, t'es rentré, t'as pas le temps de souffler, tu es déjà reparti pour d'autres objectifs. Et en fait, moi, à l'heure actuelle, en gros, je me sens un peu oppressée, tu vois. Mmh. Oppressée parce que t'enchaînes deux saisons et que t'as pas ce moment où tu te dis « ça y est, t'es en vacances, tu peux couper » et t'as pas ce sentiment de te dire « ah, le hand, il manque », tu vois.
Ouais.
Du coup, je pense que tout ça, en mixant tout ça, j'ai vraiment du mal à me dire que je suis championne olympique, tu vois. Donc, une partie de moi me dit « waouh, t'as fait un truc de ouf ». Et une autre partie a du mal à l'accepter. En fait, c'est trop bizarre comme sensation, c'est trop bizarre comme émotion. Et c'est aussi très dur à mettre des mots dessus. Parce qu'en fait, je pense qu'il faut vivre l'aventure pour comprendre, tu vois.
Ouais.
Et quand je discute avec certaines filles qui étaient avec moi au jeu, ça me rassure parce que je me dis que je ne suis pas la seule, en fait. Et qu'on a tout ce moment où, en fait, on est perdu. Honnêtement, moi, dans ma vie, là... perdu, c'est un grand mot, mais il y a énormément de choses qui passent et qui repassent et qui partent et qui arrivent et qui reviennent. Enfin, c'est compliqué. Honnêtement, c'est vraiment compliqué. Tout n'est pas clair, en fait, tu vois.
Ok. Bah, déjà, merci pour cette première réponse parce que je pense qu'il peut être aussi un peu difficile à dire. C'est ça. C'est qu'en fait, vous n'êtes plus dans juste l'euphorie du public qui voit une médaille, qui voit de l'or, qui voit des Françaises qui gagnent un premier titre olympique pour la première fois. Là, toi, t'es juste dans la réalité de celle qui vit le truc. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui juste voit le spectacle et voit la lumière, bah, il manque justement cette partie-là qui, je pense, est très dure dans le sport collectif, en fait. C'est ça, c'est comme c'est un sport d'équipe et de club. En fait, t'es pas comme dans un sport individuel où tu peux rentrer. Enfin, t'as un jour de compétition olympique ou une semaine et puis tu rentres à la maison. Ouais. Et tu, comme tu dis, tu vas couper, tu vas te mettre en vacances. Et puis après, ouais, t'as vraiment de nouveau fin de ton sport.
Exactement.
Et quand tu dis que t'es perdu, je sais que je vis pas du tout la même situation que toi. Mais en tout cas, moi, je sais que ça, enfin, ça me touche trop ce que tu dis parce que le fait que toi, tu en parles avec les filles de l'équipe ou des olympiennes, en fait, ça te permet de ne pas te sentir seule. Et c'est vrai que moi, je sais que quand j'ai vécu une situation, justement, typiquement quand je suis arrivée à Metz et que j'avais l'impression d'être vraiment dépassée par les événements, par mes exigences, par le travail, etc., j'avais l'impression d'être toute seule à vivre ça. Et donc, je me suis vraiment refermée sur moi-même et j'ai vécu tout ça émotionnellement toute seule.
Ouais.
Donc,
Je comprends parce que de base, je suis comme toi. Moi, quand ça va pas, je me renferme, je garde tout pour moi et en fait... je me suis rendu compte que ça me faisait énormément de mal, tu vois. Vraiment, là, j'en ai discuté avec les filles parce que quand on discutait, on est arrivé à ce sujet-là, tu vois. Certaines choses nous ont amenés à ce sujet-là et du coup, on s'est livrés. Et par exemple, je parlais avec Estelle et elle me dit, mais Coco, moi, je vais te le dire parce que je veux pas que tu te sentes seule à le vivre. Mais moi, c'est pareil. Et elle me dit, j'ai vécu Rio. Le retour de Rio, c'était dur aussi. Et là, je savais très bien que ça allait être dur, mais je pense que le fait d'être championne, je crois que c'est multiplié, en fait. C'est décuplé, cette sensation qu'elles ont. Moi, j'ai pas vécu Rio, donc je peux pas comparer. Mais quand je parle à certaines filles, franchement, je pense qu'aussi, il faut pas se mentir, le Covid, ça joue beaucoup aussi.
Ouais.
Parce que on n'a pas vécu la saison précédente, en tout cas, tu vis dans la crainte d'attraper le Covid. Ouais. Donc, tu ne vis pas vraiment. Tu es en mode, faut que je fasse attention, faut pas que je sorte trop, faut que je fasse ci, faut que je me lave les mains, faut que je porte mon masque. Enfin, voilà, tu deviens parano.
Ouais.
Tu te dis, faut pas que j'attrape le Covid parce que si j'attrape le Covid, je pourrais peut-être pas faire les Jeux Olympiques. Et ça, c'est le rêve de, je pense, de quasiment tous les sportifs de haut niveau. Donc, tu fais très attention. Tu es dans une bulle, en fait. Tu te renfermes sur toi-même ou avec ton équipe. Et en fait, on n'avait pas de vie. Et jusqu'à là, jusqu'à maintenant, je ne vais pas dire on n'a pas de vie, mais tu as des échéances, tu as des attentes de ton club. Par exemple, moi aussi, j'ai repris mes études. Donc, j'ai des attentes en club, j'ai des attentes à l'école, j'ai des attentes tout ça. Et du coup, tout s'embrouille. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, je me sens oppressée, en fait. Et je me dis, à un moment donné... Mais je sais très bien, je vais pas m'en cacher, je sais très bien qu'à un moment ça va péter, tu vois. Et j'essaie de sortir un peu plus, d'aller un peu plus au resto, de me balader un peu plus pour souffler, tu vois. Mais à Brest, on joue tous les 2 fois par semaine. On habite à Brest, donc ça veut dire qu'il faut un temps de voyage encore plus long que si t'habites. Non, mais c'est vrai.
Non, mais
Non,
c'est
mais
vrai, hein. On n'y pense pas,
c'est
mais
vrai, on n'y
ça.
pense pas. Franchement, on n'y pense pas,
Surtout comme on
mais
est
ça
parisienne de
joue
base.
beaucoup.
Ouais.
Ça joue énormément. Non, mais je te jure que ça joue énormément. Et c'est dur, tu vois. La première semaine de compétition, on est parti, on a joué à Bourg-de-Péage, on est parti à Rostov. Mais cette semaine-là, on est parti le mardi à 8h du matin. On est arrivé à 20h, je crois, à Bourg-de-Péage, tu vois. Enfin, à Valence, Bourg-de-Péage. C'est énorme. On partait après le jeudi, je crois, à Rostov. On est parti pareil, le matin à 8h. On arrive là-bas à 1h du matin. Donc ça fait minuit en France, tu vois. Donc c'est des temps de voyage, on se rend pas compte, mais ça pèse. Ça pèse énormément. Donc t'as de la fatigue. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes de sommeil en revenant.
Ah bah tellement
Donc
avec le
j'en ai
décalage
pas.
horaire et tout.
Ouais, et encore, hein, dans ce sens-là, Tokyo à France, ça va encore. Mais l'autre sens, c'était horrible. Ça va, mais tu vois, j'ai eu beaucoup de choses aussi qui ont fait que voilà, ça allait pas forcément. Et du coup, j'ai eu énormément de mal à dormir. Donc, tu récupères pas. Donc, tu as peur de te blesser. Donc, tu as peur de. Enfin, voilà, il y a énormément de choses qui s'enchaînent, qui s'engrènent. Et c'est dur. Je ne vais pas mentir. En tout cas, pour ma part, personnellement, c'est pas simple. C'est vraiment pas simple.
En tout cas, bah, je te souhaite de trouver des espaces quand même pour te reposer. Et c'est vrai que bah, dans un épisode du podcast, j'ai reçu aussi Olivier Crumbos, du coup le sélectionneur. Et c'est ce qu'il disait, en fait, en tant que sélectionneur et staff, ils ont quand même cette chance que les joueuses n'ont pas, c'est de pouvoir prendre du recul. Bon, en tout cas, c'est déjà
Bah ouais,
cool que
parce
tu
que...
puisses le remarquer, tu vois, et bah, te donner des espaces, tu vois, de repos et tout, quoi.
Ouais, c'est sûr. Après, ouais, c'est vrai que eux, bah, du coup, là, bon, je vais pas dire qu'ils sont en vacances, mais tu vois, ils travaillent, je pense, mais plus, enfin, c'est plus souple. Alors que nous, c'est des exigences d'entrée, en fait, tu vois. Donc, franchement, je me dis, bon, c'est un peu ma motivation, entre guillemets, mais je me dis, il faut que je tienne jusqu'à l'été, en fait, parce que là, c'est le seul moment où je pourrais vraiment couper, parce que même si t'as une trêve en décembre, franchement, 10 jours, ça te permet pas de couper, de souffler, de penser à autre chose. Vraiment, là, t'enchaînes. Enfin, c'est ouf, quoi. Depuis fin juillet 2010, 2020, jusqu'à là,
C'est
t'enchaînes. Tu te dis que la prochaine fois que tu vas couper, ça sera en juin 2021, quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc
2022,
de
du
fou.
coup. Ouais.
22, ouais, pardon. 2022, ouais. C'est ouf. C'est
Ouais.
ouf, mais je pense que je vais réaliser ce titre et cette médaille, je pense, plus tard. Je pense que ça viendra beaucoup plus tard parce que là, en fait, il y a trop de choses en jeu. Et du coup, comme je t'ai dit, en fait, t'as pas le temps de savourer. C'est comme nous, on a été championne de France, mais tu dois penser vite au Final Four. Final Four,
Ouais.
t'as fait des résultats de ouf, mais... Il y a les stages de préparation juste après. Donc en fait, toute cette saison en globalité, j'ai pas eu la sensation de pouvoir vraiment savourer mes titres en fait, tu vois. De me dire, putain, enfin je le sais que j'ai fait une bête de super saison, que voilà, j'ai eu des titres que j'ai jamais eu et que voilà, je suis fière et très heureuse, tu vois. Mais il n'y a pas eu ce moment où tu te poses et tu te dis, ah ouais, parce qu'en fait, il y a toujours quelque chose derrière. Et ça, c'est vraiment la chose qui me manque le plus, en fait, c'est de pouvoir savourer mes titres, tout simplement. Mais bon, ça viendra plus tard, hein. Tu sais, je suis vers la fin de ma carrière, donc ça viendra quand je regarderai les photos, les médailles, tout ça, je vais dire, ah ouais.
Ouais, c'est trop bien. Ça me touche trop que tu dises ça parce que tu vois, justement, moi, quand je préparais cet épisode et que je pensais à toi, enfin, cette idée de dire j'ai envie de savourer mes titres. Parce que toi, ton premier titre de championne de France, tu l'as eu à 28 ans. Tu l'as dit dans une interview. Et justement, moi, je voulais parler avec toi de cette notion de patience et peut-être même revoir un peu ton rapport à l'échec. tu vois, et au temps qui passe et aux objectifs que tu n'arrives pas forcément à décrocher, etc. Donc pour commencer, est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où tu pars, Coco, pour les personnes qui ne te connaissent pas bien?
Alors, moi, j'ai commencé le hand vers 10-11 ans en Martinique. Mes parents étaient mutés en métropole, donc du coup, j'ai joué à Palaiseau, donc dans l'Essonne. Deux ans, je crois. Ensuite, j'ai été à Essey-les-Moulineaux parce que j'étais au pôle de Châtenay. Je crois que je dis bien dans l'ordre, là, j'espère. Parce que... donc voilà, donc, j'étais en N2 à l'époque. J'ai fait deux ans au pôle. Je crois une année j'étais au pôle avec Palaiseau et une année j'étais avec ICI.
Ouais.
Voilà. Donc, du coup, après ICI, centre de formation pendant 3 ans, j'ai fait un contrat pro de 5 ans. Donc, une fois 3 ans, une fois 2 ans. Je suis partie en Hongrie pendant 2 ans et là, depuis juillet 2019, je suis en métropole à Brest.
Ok.
Voilà, donc j'ai eu ma première sélection en équipe de France en 2015, en octobre 2015. C'était avec Alain Porte. Ouais. Ensuite, Olivier est revenu, donc j'ai eu encore quelques sélections avec Olivier. J'ai fait TQ à Metz en 2016. J'ai fait la prépa des Jeux Olympiques de Rio, mais je me suis blessée, donc j'ai pas eu la chance, en tout cas si j'avais la chance de pouvoir faire les Jeux, ça s'est envolé.
Ouais.
Du coup, ça, c'était aussi une période assez dure. Ouais. Parce que, je ne savais pas si j'allais partir parce que j'étais en concurrence avec Manouette. Mais je me sentais bien en forme. J'avais qu'une hâte, c'était de pouvoir faire les Jeux Olympiques. C'est un rêve que j'ai depuis que j'ai commencé le hand à haut niveau. Donc, très dur, mais du coup, j'ai eu la chance de pouvoir couper 3 semaines.
Ouais, du coup, c'est
tout ça. Voilà, de mettre tout ça de côté et de me reconstruire.
Ouais.
Et de me dire que, en fait, ça arrive. La vie ne peut pas être rose tout le temps. Et que si tu veux pouvoir y participer un jour, il faut que tu te mettes au travail dès maintenant. Donc, à la préparation avec le club en 2016, je me suis... étant bien ressourcée, j'ai pu bien me donner, me mettre à fond et tout ça. Donc, petit à petit, je faisais mon petit bonhomme de chemin. À ICI, j'étais plutôt bien, je pense, je me rappelle.
Ouais, oui, t'étais très, très bien. Moi, j'étais une petite à ICI et t'étais... Enfin, après, tu peux me dire, toi aussi, quel genre de joueuse tu penses être, tu vois, comment tu pourrais te décrire, mais tu vois, moi, je te décrirais comme quelqu'un de très... de très rigoureux, tu vois, quelqu'un qui est toujours pas à l'heure, mais très en avance, qui travaille vraiment avec beaucoup de... tu vois, de précision, quelqu'un qui est un peu pas irréprochable, mais tu vois, quelqu'un de très pro, tu vois, de très...
C'est vrai qu'à l'époque, j'étais beaucoup plus... j'étais très perfectionniste, déjà.
Ouais.
Je le suis toujours un peu, mais je l'étais, je pense, un peu trop parce que, par exemple, quand on perdait des matchs, etc., j'étais tout le temps énervée. Et franchement, ça prenait énormément d'énergie. Alors que maintenant, avec la maturité, je prends un peu plus de recul. Je me dis, en fait, je peux pas tout contrôler. On fait un sport collectif, donc c'est tout le monde. Et je peux pas décider toute seule du sort du match. Donc, du coup, je prends un peu plus de recul et je me dis plus, est-ce que tu penses que ce que tu as fait a apporté à l'équipe et est-ce que tu es satisfaite de tes performances? À partir de là, maintenant, je me dis, si ça, c'est le contrat est conclu et réglé, franchement, c'est très bien parce que tu ne peux pas en faire plus. Et d'être trop énervé, ça prend énormément d'énergie. Tu commences à voir des choses un peu, des détails que tu ne voyais pas forcément. Ouais, exactement. Il y a tout qui peut t'énerver et ça sert à rien en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris avec la maturité, avec aussi, je pense, mon voyage en Hongrie. Du coup, j'ai quitté mon confort et que je me suis retrouvée toute seule, entre guillemets.
Ouais.
Et je pense que cette expérience-là aussi m'a appris énormément de choses. Déjà, qu'on était très, très bien en France. que c'est pas simple d'être à l'étranger. Après, je pense que ça dépend des clubs, forcément. Moi, je dis pas que j'étais dans un club pourri, loin de là. Ça s'est très bien passé. C'est juste que, en fait, tu te rends compte de plein de choses. des choses que tu te plaignais pour X ou pour Y, bah, franchement, quand tu vis à l'étranger, tu te dis « Ah ouais, c'était rien en fait, c'était vraiment rien. » Donc, je pense que déjà de base, on aime bien me dire que je suis une fille calme. Bon, je pense que je suis plus calme qu'avant. Je suis une fille, en fait, moi, je sais, comme je t'ai dit, que je suis un peu plus vers la fin de ma carrière, que j'ai envie d'apporter un peu plus aux jeunes. Ouais. Et ça, je pense que même depuis ici, même si j'étais déjà jeune, j'essayais d'apporter un peu mes connaissances et mes savoir-faire aux jeunes, parce que pour moi, c'est important, c'est la relève. Et si on veut gagner, pour moi, il faut conseiller les jeunes plutôt que de s'acharner sur eux, en fait.
Ouais.
Et après, ça dépend aussi de certaines joueuses, certaines jeunes, parce qu'il y en a qui sont têtues, qui sont bornées, d'autres qui sont très à l'écoute. Et moi, je préfère les filles qui sont à l'écoute parce que c'est plus simple pour expliquer les choses. Et ça va dans mon caractère, en fait. Ouais. Vu que moi, je suis posée et que je suis une fille qui écoute énormément, ben, j'ai appris des anciennes. Et ben, moi, pour moi, c'est normal d'apprendre aux plus jeunes, tu vois. Ouais. Donc, moi, c'est quelque chose, ça, que je pense que j'ai eu depuis Paris, que j'ai toujours, parce que c'est important. Et voilà, c'est le handball français aussi qui évolue. Et je pense que les jeunes, c'est notre futur, enfin, ouais, tout simplement. Et qu'elles ont besoin aussi d'avoir peut-être une vision un peu différente de ce qu'elles peuvent avoir et de ce que les coachs aussi peuvent dire. Parce que les coachs, ils peuvent voir beaucoup de choses, mais au final, c'est nous qui sommes sur le terrain et c'est nous qui voyons beaucoup de choses aussi. Donc pour moi, c'est important d'aider en tout cas les plus jeunes et de les voir éclore, vraiment. Et je me suis un peu...
Est-ce que quand tu dis ça, tu penses peut-être à une certaine Déborah à la source ou d'autres...
oui, il y a ma sœur, mais il y en a plein d'autres. Il y a toi aussi, quand tu étais plus jeune. Je me rappelle qu'on faisait la PMA et que t'en pouvais plus et que je disais, allez, ça va le faire. Ouais, alors, moi-même, j'en pouvais plus, tu vois. Enfin... non, mais c'est vrai, mais tu vois, on avait des distances à respecter. Je savais que c'était dur, mais je voulais le faire et je voulais montrer aux jeunes que c'est possible de le faire et que voilà, enfin... C'est des choses... j'aime bien, entre guillemets, être un exemple, tout simplement. Je pense qu'il n'y a pas d'autres mots. Pour moi, c'est... Comment dire ?
Oui, c'est d'une certaine manière... en fait, si toi, tu arrives à montrer que... Déjà que c'est possible, bah, c'est une manière d'encourager les autres à le faire. C'est une manière de t'encourager toi aussi à le faire. Et ouais, c'est une manière de progresser tout ensemble. Parce que finalement, si les petites derrière toi, elles n'arrêtent pas et elles continuent de courir et elles poussent, bah, elles vont peut-être finir par courir plus vite que toi et toi, tu auras besoin de t'entraîner encore plus. Et donc, on avance comme ça tout ensemble, tu vois.
C'est un petit cercle. C'est exactement ça.
C'est vraiment un cercle vertueux, en fait. Et comme tu dis, en fait, plutôt que de vouloir s'acharner sur les nouvelles, peut-être parce qu'on a des insécurités, parce qu'on a peur pour notre place et tout, bah, en fait, vraiment se mettre dans un rôle de... où on est ensemble, tu vois, de sororité. En fait, si je parlais de ta sœur, c'est justement pour jouer sur ce mot-là, tu vois, sur la sororité, le fait qu'on... Finalement, on est là-dedans tout ensemble, tu vois.
Ouais. Et puis, en plus, on avait un groupe assez jeune aussi à Paris. Donc, forcément, on avait besoin de tout le monde. Et la meilleure façon pour moi de que tout le monde se sente concerné et important, c'est en les aidant et en les sentant... Enfin, en leur faisant sentir qu'on a besoin d'elles, en fait, tout simplement. Et ça, c'est pas en s'acharnant, enfin, en tout cas pour moi, ma vision des choses, c'est pas en s'acharnant sur quelqu'un que tu lui fais sentir qu'elle est importante, en fait, tout simplement.
Ouais, ok, trop bien. Et donc tu parlais de ta blessure avant les Jeux Olympiques tout à l'heure. J'aimerais revenir sur d'autres moments que t'as peut-être vécu comme des échecs ou je sais pas, parce qu'à Paris, t'as joué longtemps, à peu près 9-10 ans. Est-ce que et c'est un club dans lequel on a peiné à avoir des titres, on a fait des finales, on les a pas gagnés, on a souvent été très proches et on n'y est pas arrivé. Donc comment est-ce que toi aussi t'as vécu ça, le fait d'avoir des très grandes ambitions, de travailler vraiment au quotidien pour te hisser au meilleur niveau, mais à chaque fois passer à côté mais vraiment à rien des titres. Enfin, et puis surtout, comment après tu fais du coup pour garder la, entre guillemets, la patience et de continuer, tu vois? Parce que moi, je sais que j'étais par exemple quelqu'un de très pressé. Tu vois, moi j'avais un côté, il faut réussir maintenant, tout de suite et tout. Et il y avait une espèce d'urgence à l'intérieur de moi, alors que je suis en train de calmer, tu vois. Et, ouais. Et comme tu dis, c'est la maturité qui te permet de te dire, mais en fait, on n'est pas pressé, t'as 23 ans. Et justement, tu vois, j'ai envie de me dire, regarde, ouais, Coco, elle a 28 ans, elle a son premier titre de championne de France, et puis elle fait tout dans la même année, la meuf, tu vois.
Je te jure.
Peut-être que, voilà, on peut prendre le temps aussi. Donc, voilà, comment est-ce que... Toi, tu as vécu toutes ces finales perdues, ces années où il fallait recommencer à chaque fois, repartir, pas à zéro, mais en tout cas repartir et être patiente, en fait.
Très bonne question. Non, je pense que ça rejoint un peu ce que je disais, que en fait, forcément, tu es déçue, forcément, tu es énervée. Et en fait, je pense que après chaque saison, peut-être... Je prenais un peu de recul, pas forcément autant que maintenant, mais je pense que je prenais un peu de recul et que je me disais, ok, cette fois-ci, t'as échoué, mais si tu veux vraiment y arriver, il faut que tu retravailles dur, que tu te remettes sérieusement, ça va venir à un moment donné. Bon, ça a pris du temps, hein. Franchement, je pense qu'en vrai, ça arrivait au moment où, je vais pas dire où tu t'y attends le moins, mais où tu... t'es un peu plus posé en fait, où tu mets moins cette pression de « il faut qu'on gagne, il faut qu'on gagne, il faut qu'on gagne ». De toute façon, on était dans un club avec Brest où tout le monde avait envie de gagner, où on était parti sur une très bonne lancée ma première saison, où on a été coupé par le Covid. On avait toute envie de gagner quelque chose cette saison-là. Et en fait, on était toutes dans le même état d'esprit, toutes dans cette sérénité entre guillemets aussi, toutes dans... cette confiance les unes envers les autres. Et en fait, ça t'aide énormément, en fait. Tu te dis que peu importe ce que tu vas faire, bah, il y aura toujours les filles derrière toi. On était dans une bulle, mais positive. Alors forcément, il y avait des moments où ça n'allait pas. Hein. C'est pas
bien
tout.
Bien sûr.
Tout n'est pas rose. Mais je pense que c'est cet environnement-là qui fait que bah, tu avances sereinement. Moi, je suis quelqu'un qui lâche rien déjà de base. Donc, quand j'arrive pas à un truc, je continue. Alors, quand j'étais jeune, c'était pire. Et puis, je me disais aussi, franchement, t'as pas fait tout ça pour rien. Ça va venir. Attends. Continue à travailler. Tu fais pas tous ces sacrifices pour rien. Alors, j'ai vraiment eu cette notion de sacrifice quand je suis partie en Hongrie où je me suis dit, ah ouais, t'as vraiment fait du hand ton métier et. Et c'est un énorme, énorme sacrifice, franchement, d'être parti à l'étranger parce que tu quittes ton confort. Moi, j'étais vraiment dans mon confort avec ma famille à côté, mes petits rituels que j'avais toutes les semaines, le dimanche, aller chez mes parents, faire ci, faire ça. Enfin, voilà, ça faisait 6 ans que j'étais à Paris, 7 ans, donc que j'avais, tu vois, mon rythme de vie là-bas. Ouais. Et là, tout a changé, tout a basculé d'un coup. Et en fait, je me dis, voilà, je suis revenue en France. Parce que j'avais une hâte, c'était de rentrer. Et je me suis dit, en fait, t'as pas fait tout ça pour rien. Il faut qu'au moment de ta carrière, tu gagnes quelque chose. Mais ça, c'est vraiment personnel. Et en fait, bien sûr. Je pense que j'ai travaillé peut-être pas de la même façon. Peut-être plus mentalement, en me mettant moins la pression. En me disant... Bah écoute, tu sais jouer au handball, t'as pas fait tout ça pour rien, t'as déjà eu des sélections en équipe de France, t'as déjà voyagé, t'as d'expérience un peu à l'étranger, tu sais jouer, maintenant, advienne que pourra, tu vois. Déjà, le but premier pour moi, c'est de revenir en France. Et ça, c'était le plus important pour moi, ça c'est arrivé. Et après, je me suis dit, franchement, essaie de prendre plaisir le plus possible. Parce que c'est vrai que des fois, cette notion de plaisir, on la perd.
Ouais.
Et c'est dur parce que du coup, t'as l'impression de faire un truc par obligation alors que c'est nous-mêmes qui voulions ça.
Ouais.
Et de base, c'est une passion, c'est un plaisir. Et de voir que le hand devient une obligation, ça a moins de charme. Et tout ça prend énormément la tête. Hein?
Ah bah oui, oui, à qui le dis-tu?
Ouais, voilà. Non, mais c'est vrai. Et franchement, je t'admire d'avoir eu le courage de le faire parce que moi, j'ai eu plein de fois le courage de me dire... Enfin, pas le courage. Plein de fois, je me suis dit, allez, je vais arrêter, ça me saoule et tout, nan. Après, je me suis dit, non, je sais qu'il y a quelque chose derrière, tu vois. Mm-hmm. Mais plus les années passent, je mûris, t'as des envies en tant que femme qui se développe de plus en plus, tu te demandes si le hand s'est adapté à ça, surtout je vais revenir sur ça, mais surtout quand tu vis à Brest ou quand tu pars, c'est pour
des voyages, hein.
Ouais, des longs voyages. Il y a des nouvelles envies qui apparaissent. Et là, je réfléchis plus, un peu plus en tout cas, sur ma fin de carrière, à quel moment je vais arrêter. Enfin, voilà, ça dépend de plein de choses. Tu sais que je pense que je vais pas t'apprendre grand-chose, mais si t'as pas connu quelqu'un dans ta vie qui t'a connu à tes débuts dans le hand, quelqu'un qui rentre comme ça et qui connaît pas forcément ta vie, qui comprend pas pourquoi tu voyages autant, etc.
Ouais.
C'est dur. C'est complexe. Et voilà, je t'ai dit, moi maintenant, il y a des envies qui se développent de plus en plus. Et je sais pas si le hand me permettra de réussir, tu vois, de fonder tout simplement ma famille, parce que c'est un peu ce dont je parle. Je sais pas si tu peux rencontrer quelqu'un qui pourra comprendre et qui pourra accepter surtout. Tu vois, ça prend énormément de place, hein, le hand. Et surtout nous, où on fait Ligue des Champions, Championnat, Coupe de France, enfin... Ça prend énormément de temps. Et du coup, c'est vrai que mentalement, après aussi, vu que j'ai enchaîné aussi, du coup, c'est ça, c'est dur. Ouais. Et du coup, tu te demandes, est-ce que je vais pas faire une pause, quoi. Et quand tu regardes certaines filles dans d'autres pays, par exemple Dmitrieva ou Vakireva, tu vois, elles ont le courage de se dire, OK, je prends 1 an ou 6 mois de pause parce que sinon, je vais exploser. Mais moi, en vrai, je sais même pas si j'aurais le courage de le faire. Alors que ça me traverse des fois l'esprit, tu vois. Ouais. Parce que, je sais pas,
Typiquement, c'est moi, c'est ce que je fais. Parce que moi, par exemple, ce qui me retenait, c'était de me dire, mais en fait, t'as pas encore fait tout ce que tu voulais. Est-ce que tu prends pas un trop gros risque? Tu vois.
Je vois.
Question, elle est hyper dure, en vrai. Enfin, c'est tellement... c'est pas que ça se fait pas dans ce métier, mais quand même, c'est rare quand même de faire ça dans ce métier.
Ouais, c'est rare, mais tu vois, ça devient de plus en plus fréquent maintenant. Et pourquoi? Parce que je pense qu'il y a... On prend pas soin de nous, que ce soit nous personnellement ou l'environnement, ne prend pas soin de la santé humaine. Ouais. Pour moi, c'est ça. Tu peux pas... comment tu peux, en gros, accepter... qu'après des Olympiades, que des joueuses qui font la Ligue des Champions jouent dès la première semaine, 2 matchs par semaine. C'est... Ouais. Tu vois, je remets pas en cause les clubs ou autres. C'est juste que, humainement, forcément, à un moment donné, ça va lâcher. Mais c'est normal, tu vois. Et ça, il faut que, je pense, tout le monde l'accepte, même si c'est dur. Moi, avant, tu m'aurais dit ça, je pense, il y a 1 an, je t'aurais dit « Ah non, c'est pas possible ». Je peux pas lâcher, je vais pas lâcher. Enfin, je suis forte mentalement. Mais en fait, je pense qu'on est... Je vais pas dire qu'on est pas assez renseigné, mais en fait, de plus en plus, maintenant, tu vois que la santé mentale des sportifs de haut niveau est très, très engagée, en fait. Regarde, il y a Simone Biles qui en a parlé pendant les Jeux. Ouais. Je t'ai pris l'exemple des filles qui sont en pause.
Lucas Ballot aussi en a parlé.
Tu vois, c'est vraiment... Enfin, je suis contente que les gens en parlent parce que du coup, tu te sens moins seule et tu te sens moins bizarre.
Tout à fait.
Bizarre, c'est un grand mot, mais...
Ouais.
En fait, tu te sens comprise et ça aide beaucoup à avancer, je trouve. Ouais. Et à prendre le risque que toi, par exemple, t'as pris. Parce que tu te dis que t'es pas seule et que ça arrive et que c'est pas une honte et que des fois, on a besoin de se retrouver soi-même avant de faire autre chose, quoi. De pouvoir être dans un sport collectif ou... Où tu vois, il faut que tu donnes de ta personne aux autres. Franchement, là, en ce moment, c'est dur parce que après les Jeux Olympiques, pendant les Jeux Olympiques, on a donné beaucoup d'énergie. T'as puisé dans tes réserves parce que t'as fini la saison, t'as enchaîné, t'as vécu une aventure de folie. Et là, tu dis, il faut que je revive une aventure de folie. Donc, il faut que tu puises encore dans tes réserves. Mais elles sont quasiment vides, en fait. Ouais. Et c'est vrai que... Il manque un peu ce soutien, entre guillemets, mais de qui, je sais pas.
Mais des fois,
je pourrais pas te dire.
Mais des fois, c'est comme ce que tu dis, en fait, c'est juste les ressources humaines. C'est-à-dire que des fois, c'est pas une question de... En fait, des fois, c'est juste du repos. Tu vois.
Ouais. Ouais, non, mais oui, c'est vrai.
Des fois, c'est. Et c'est vrai que.
C'est ça.
La machine, elle est tellement cadencée. C'est une espèce de machine à laver qui s'arrête jamais et tout. Mmh. Qui est fascinante, hein, comme tu dis. C'est... Bah, typiquement, tu vois, Simone Biles et Luca Ballo, je les ai mis dans l'extrait pour le premier épisode du podcast. En fait, j'ai réutilisé des pistes parce que justement, ils disent des choses vachement intéressantes là-dessus.
Ouais.
Et c'est ça, c'est cette machine à laver où on devrait être là. Simone Biles a dit ça. En fait, on devrait être là, on devrait s'amuser, mais c'est pas toujours le cas. Parce Exactement. Que c'est trop complexe et voilà, c'est ça qui fait que c'est beau, hein, finalement, et à chacun de trouver son équilibre. Ouais. En tout cas, moi, ce que je retiens de ce que tu as dit, c'est surtout cette notion de sérénité et peut-être de lâcher un petit peu le rouleau compresseur. Parce que déjà que le rouleau du système est fort, si en plus, toi, à l'intérieur, tu te détaches pas un petit peu peut-être des résultats, comme tu dis, finalement, il y a un moment donné, tu t'es dit, je sais ce que je vaux, j'ai plus besoin d'aller chercher, en tout cas, de la valeur ou qu'on me valide dans ce que je vaux. Et bah maintenant, je peux revenir et juste prendre du plaisir. Ouais. Et en tout cas, je retiens vraiment ça.
Bah donc, oui, non, mais c'est ce qu'il faut. Hein. Et franchement, je ne sais pas si tu vas refaire du hand après, mais je pense qu'il faut... T'es jeune. T'es jeune et c'est peut-être pas plus mal que tu fasses ça maintenant parce que tu pourras mieux revenir que si, par exemple, je le fais moi. Mm. Parce que voilà, même si on me voit physiquement, je suis bien, etc., c'est plus compliqué, je pense, de revenir si t'es à mon âge que si t'es au tien, honnêtement. Parce que je pense que si moi, j'arrête et que je kiffe ma vie, je vais pas revenir. Non, mais entre guillemets, c'est vrai, parce que... Enfin, après, c'est cette saison, franchement, c'est dur. Hein. Mais du coup, là, je me dis, si je me coupe là, je vais trop kiffer ma vie. Donc, je vais plus jamais revenir. Sauf que, tu vois, j'aimerais quand même avoir étoffé un peu mon palmarès, même s'il est... Franchement, là, j'ai fait une saison, je sais pas si je revivrai une saison pareille, parce que c'est un truc de folie, vraiment. Mais si je peux avoir encore un petit titre, voilà, quoi.
Let's go, quoi. Trop bien.
Voilà. Du coup, trop c'est bien. Pour ça que des fois, je me dis, réfléchis bien, parce que si tu t'arrêtes, si tu fais une pause maintenant... Tu vas partir en couille.
Ok.
Non, j'abuse, mais ouais, non, non, je pense que... Oui, après, je pense qu'aussi, il faut savoir discuter avec le staff.
Ouais.
Et savoir dire que, quand ça va pas, quand tu penses que c'est un peu... Ça, c'est dur, tout simplement. Ouais. Je pense qu'ils sont humains et qu'ils comprennent. Et peut-être que des fois, on a un peu trop cette peur d'en parler, par peur de plus être reprise ou plus ceci ou plus cela, mais en fait... Au moins, tu sais que tu auras été honnête avec toi-même, que tu auras dit les choses. Si ils ne t'écoutent pas et que tu te blesses, je touche du bois, j'avais prévenu. Ils n'ont pas écouté, voilà. En gros, ça dépend de la blessure aussi, tu vois. Mais tu peux t'en vouloir, mais après, au final, non, parce que tu as averti, tu as lancé le signal d'alerte. Ils ne l'ont pas accepté, ils ne l'ont pas pris comme toi, tu voulais qu'ils le prennent. Après, entre guillemets, c'est leur problème, tu vois. Tant que toi, t'as tiré la sonnette d'alarme et t'as dit, attention, là, je me sens pas bien, etc., c'est à eux de gérer. Après, je pense que, en tout cas, à Brest, ils sont très à l'écoute. Ils savent très bien que c'est dur parce qu'on a enchaîné. On n'a pas eu vraiment de vacances. Quand tu regardes certaines filles qui ont 6 semaines de vacances et que toi, t'as eu 10 jours par là, 4 jours par là, 4 jours... Enfin, voilà.
Ouais.
Forcément, je pense qu'ils savent que voilà, c'est dur, mais c'est dur aussi pour moi, par exemple, parce que je sais que je suis quelqu'un d'important dans l'équipe et que même si je parle pas beaucoup ou autre, que j'apporte quelque chose que si je suis pas là, il y aura peut-être pas. Ouais. Je dis bien peut-être pas parce que voilà, je peux pas dire. Et du coup, c'est dur parce que tu te dis, t'as envie que l'équipe avance, mais il faut que je fasse attention à moi. En même temps, si je suis pas là, qui pourra faire ce truc-là que moi j'ai ? Enfin, tu vois, il y a beaucoup de réflexions. Mais je me dis, quand je me pose, je me dis, en fait, là, le plus important, c'est toi. Parce que si là, tu y es, mais t'es épuisé, tu vois, ça ne servira à rien.
Ouais.
Tu vas te blesser et tu ne seras pas là et ça sera contre ton gré. Mmh. Alors que si tu prends ton temps, tu te dis, écoute, là, ça ne va pas. Voilà, si tu, la route, tu rates un ou deux matchs, mais qu'à la fin, les phases finales, tu es là et que... tu pousses ton équipe, c'est le plus important en soi. À la fin, C'est au mois de mai et juin, en fait, les meilleures échéances. Donc, je pense qu'il faut aussi apprendre à communiquer avec son staff et surtout à se connaître soi-même, à savoir dire stop quand c'est stop.
Trop bien.
Vraiment.
Super. Bah, merci
Oui.
Coco. Je vais te poser
Je
deux
t'en prie.
dernières questions.
Vas-y.
La première, c'est est-ce qu'il y a un mythe ou un mytho que tu aimerais déconstruire dans le sport de haut niveau?
Bah déjà, je pense par rapport au sport féminin en général, tu vois. C'est vrai qu'on parle souvent du sport masculin, que c'est surtout le sport masculin qui est mis en avant, mais la preuve, là, il y a des sports féminins qui ont eu des médailles aux Jeux Olympiques, et je ne sais pas quel est le pourcentage, mais les filles comme les garçons peuvent exceller dans leur sport, et c'est vrai que j'aimerais en tout cas que le sport féminin soit plus médiatisé et plus connu, qu'on en parle un peu plus, parce que ben il y a des résultats chez les femmes. On arrive à faire un truc de ouf au hand, à avoir deux titres de champion olympique hommes et femmes, c'est historique en fait. Et là, c'est vrai que j'entends un peu plus parler de nous parce que c'est la première fois qu'on gagne. Donc c'est cool. Mais ça peut vite se retourner, tu vois. Et c'est un peu ce qui est dommage parce que nous, par exemple, on fait beaucoup plus de concessions que les garçons. Par exemple, devenir maman, pour nous, c'est plus compliqué que de devenir papa pour un homme. Parce qu'un homme, il n'a pas porté 9 mois l'enfant, il n'a pas. Enfin voilà, c'est différent et je pense que certaines choses devraient être mises en avant par rapport aux hommes.
Bah merci pour ce beau message. Et
Ouais,
pour finir, la question signature du podcast, est-ce que tu as une recommandation d'invité pour moi, une joueuse qui est particulièrement importante pour toi ou qui tu penses aura des choses intéressantes à nous raconter?
les deux personnes que j'allais te dire, je les ai déjà eues. Qui je pourrais te dire? T'as déjà eu Estelle?
Je l'ai eu il y a longtemps. Et en fait, il y a plusieurs personnes qui me redemandent Estelle Enziminko. Donc, peut-être.
Je dirais Estelle.
Ok.
Parce que sinon, je t'aurais dit Debo ou Pauletta, mais c'est un peu plus récent, je pense,
Ouais.
qu'Estelle. Voilà,
Ouais.
donc moi, je te dis Estelle.
Ok. Ça marche. Bah, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup,
Voilà,
Coco.
je t'en prie, merci à toi, t'es trop mignonne.
J'espère que cet épisode vous a plu. J'ai brièvement essayé de faire un résumé en début d'épisode des leçons qu'on peut apprendre du vécu de Coralie. Parce que c'est vraiment mon intention cette saison sur le podcast, c'est d'essayer de créer une espèce de mood board audio où vous pourrez piocher comme ça les expériences des invités et essayer de les adapter à votre propre cheminement personnel. Parce qu'en fait, en ce moment, justement, je suis en train de me former pour devenir coach en développement personnel et accompagner les athlètes de haut niveau et même des particuliers vers une connaissance d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes qui soit plus authentique et qui leur permette vraiment de débloquer des situations. Comme typiquement tout à l'heure, Coco, elle parlait de la colère qui la faisait ruminer, qui l'empêchait de se concentrer sur ce qu'elle pouvait vraiment faire. Et bien ça, il y a plein de moyens dans le coaching qui nous permettent de comprendre qu'est-ce qui est propre à l'individu et pas un système, et qui te permet en fait de te changer toi, au lieu de changer tout le système du haut niveau, pour pouvoir évoluer de manière sereine dans ton milieu. Ça, j'en parlerai au fur et à mesure de l'année, et je vous parlerai aussi des outils que je suis en train d'acquérir et de l'accompagnement que je proposerai ensuite. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, s'il vous a apporté quelque chose. Vous pouvez m'écrire à onpaperspodcast@gmail.com. Merci à toutes celles et ceux qui le font déjà. Et aussi sur Instagram, à @andpapers, où vous êtes aussi très nombreux et nombreuses à m'écrire, et ça me fait toujours très plaisir. Comme toujours, pour soutenir le podcast, pensez à le partager à des amis, à le noter, de préférence avec 5 étoiles, sur Apple Podcast, si vous avez un Mac ou un iPhone, ou sur l'application de votre choix. Ah oui, la musique que vous avez entendue en introduction a été réalisée par Neptune Football Club. Et à la fin, c'est toujours Elia. Bisous!